parole du jour avec le Père Willem.
Vouloir la bienveillance, vouloir du bien à l'autre n'est pas naturel, surtout quand la violence et la peur habitent nos relations et font partie de nos vies. Et c'est pourtant une bienveillance désarmée et désarmante que le Christ est venu porter dans notre chair et offrir à tous, ennemis et centurions compris, dans sa mort injuste sur la croix. Signe dès lors de résurrection, de pardon, de paix promise et possible. La bienveillance est une dimension efficace de la bonté qui doit se déployer dans toutes les fibres de notre existence. Il faut pour cela écouter l'appel à être bienveillant en pensée, en parole, par action et sans omission. La bienveillance, invocable à la sonorité fluide, évoquant un bruissement d'eau, un discret chatoiement, un mot que l'on utilise et n'entend prononcer pourtant que rarement, comme s'il était un peu suranné, voire saugrenu, que l'on avait perdu de vue sans signification et surtout que l'on mésestimait sa valeur, méconnaissant son efficience. Depuis quelques années, cependant, des auteurs se sont penchés sur cette disposition à témoigner aux autres de la bonté, de l'obligeance à traiter toute personne, proche ou non, avec respect. Ainsi, le moine bouddhiste et écrivain Mathieu Ricard, la théologienne Lita Basse, le philosophe Michel Tereschenko, parmi d'autres. Deux millénaires et demi auparavant, Lao Tzu soulignait déjà la force salutaire et féconde de la bienveillance, apte à arrêter le mal avant qu'il n'existe, calmer le désordre avant qu'il n'éclate. La bienveillance, le mot est formé sur le participe présent. C'est un mot ancien du verbe vouloir, voilant, veillant, dérivé du latin benevolens, qui veut du bien, ce qui est favorable à. Tout verbe exprime donc une énergie, qu'elle soit d'action, d'état ou de devenir, et subsiste dans le substantif bienveillance une part de ce dynamisme verbal. La bienveillance est un bon vouloir continuellement en action. Aussi discrète soit-elle d'ailleurs, elle n'est jamais trop bruyante, elle n'est jamais tapageuse en tous les cas, et elle n'a rien d'exceptionnel dans le sens où c'est dans l'ordinaire des jours qu'elle s'exerce parfois furtivement au hasard d'une rencontre. On permet aussi, en jouant sur l'homophonie, rapprocher ce mot du participe présent du verbe « veiller ». La bienveillance relève de la veille, de la vigilance portée aux autres. Elle est une attention irriguée de sollicitude et elle est une bienvenue souhaitée à tous. C'est ainsi qu'elle désarme la violence et le mal avant leur émergence. Il suffit de si peu, oui, de si peu, pour la faire se dresser. Elle ne leur donne jamais rien en pâture qui puisse les exciter. Lao Tzu déploie avec sobriété l'éventail des bienfaits produits par la bienveillance. Un mot prononcé avec bienveillance engendre la confiance. Une pensée exprimée avec bienveillance engendre l'amour. Ce bref inventaire de l'efficacité propre à la bonté évoque à l'envers le rappel des modes du péché énumérés au début du Confiteor. Je confesse à Dieu, vous connaissez bien la formule que l'on dit au cours de certaines messes, une répétition morne et triste qui finalement risque de ne pas changer grand-chose à notre vie. au péché en parole, qui joue des péchés des capitaux sans garde ou mesure, car clandestinement, en toute impunité, dans un monologue muet, qui peut néanmoins être intense et obstiné. La bienveillance oppose une pensée dénuée d'orgueil, de convoitise et de jalousie, de torpeur, autant que de rage et de haine. Une pensée sans préjugés ni calcul, dépourvue de toute arrière-pensée légère, donc, et ouverte à tous les imprévus, tous les possibles. Une pensée libre et libératrice, elle n'enferme pas l'autre dans une image préconçue et fixée une fois pour toutes, elle l'appréhende en souplesse, sans rien qui pèse ou qui pose sur elle. Elle l'envisage sur un fond nu, immense, celui de son humanité. Un exemple de pensée non bienveillante est donné par le prophète Jonas. C'est à contre-cœur, avec beaucoup de résistance, voire de hargne, qu'il accomplit la mission qui lui est confiée par Dieu, mettre en garde les habitants de Ninive qui se sont égarés dans une grave inconduite. Jonas n'a que mépris et inimitié à l'égard des Ninivites. Le sort terrible qui les menace s'ils ne se repentent pas. Ça ne les meut pas d'ailleurs. Il les verrouille dans leur faute qu'ils jugent définitive, sans rémission. À quoi bon ? Oui, à quoi bon aller les alerter pour leur donner une chance d'être sauvés ? Ils ont péché, qu'ils soient punis. Il méconnaît la vraie grandeur de Dieu d'ailleurs, Jonas. Cette grandeur de Dieu qui se déploie dans la profusion de sa miséricorde, comme il méconnaît d'ailleurs la complexité de l'humain, toujours capable de changement, de conversion, aussi bas qu'il l'est tombé. Et lorsque le pardon est accordé aux Ninivites, loin de s'en réjouir, Jonas en eut un grand dépit et il se fâcha. Voyez dans Jonas au chapitre 4. La pensée bienveillante ne cherche pas la paille dans l'œil de son prochain, et même si elle l'aperçoit, elle ne s'y attache pas, elle passe outre, non par insouciance, distraction ou indifférence, mais par délicatesse. Dans l'œil du prochain, fut-il un criminel avéré, dont les fautes ont bel et bien fini par atteindre la taille d'une poutre, le bienveillant regarde plus loin, plus profond que cet obstacle. Il sait que l'espace subsiste encore autour de la poutre et que celle-ci peut être descellée, au moins ébranlée. Le regard amical, la pensée de clémence adressée à l'autre accroissent en ce dernier son espace intérieur, l'aide à se désencombrer en lui révélant qui ne se limite pas au crime qu'il a commis, qu'un vivre autrement reste toujours possible. La bienveillance est une pensée simple, dépouillée, qui toujours considère l'autre dans sa dimension de visage et le réfléchit dans la clarté de la fraternité et qui, dans cette pure réflexion, attend que l'autre me réfléchisse pareillement, d'égal à égal, tous deux à hauteur d'humanité.